France Culture.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Bonjour et bienvenue dans les midis, aujourd'hui encore en public du Festival d'Avignon, sous les platanes du cloître Saint-Louis. Au programme, dans quelques instants, Jean Giono et des paysages devenus acteurs, croisés avec des paroles de paysans, en compagnie de Clara Edouin et Romain de Bec-de-Lièvre, qui écrivent un théâtre de terrain et de territoire avec Prélude de Pan. Puis, après le journal, un artiste albano-grec dont nous découvrons avec bonheur le travail cette année au festival, Mario Banucci, qui conçoit lui un théâtre de lumière avec son spectacle Mamie. Bonjour Clara Edouin.
Bonjour.
Et bonjour Romain de Bec-de-Lièvre.
Bonjour.
Vous travaillez ensemble depuis plus de 10 ans à l'écriture de spectacles que vous mettez en scène, Clara Edouin, et qui ont notamment pour particularité de jouer avec les lieux du dehors. Il y a d'abord eu Les Trois Mousquetaires, la série, qui de ville en ville a été donnée dans des friches, des ruines, des monuments historiques et qui tourne encore. Il y a 2 ans ici et ailleurs depuis, nous avons pu découvrir Que ma joie demeure, spectacle en déambulation conçu autour de l'œuvre de Jean Giono. Et voici cet été Prélude de Pan, d'après Giono également, présenté dans le cadre du Festival d'Avignon avec le Festival Villeneuve en scène. C'est à Villeneuve que ça se joue, pleine de l'Abbaye. Alors je dis « et voici » pour suivre la chronologie avignonnaise, mais en réalité ce Prélude de Pan précède votre spectacle « Que ma joie demeure ». Il en est un prélude, Clara Edouin.
Oui, tout à fait. En fait, le Prélude de Pan est né au milieu de notre travail d'écriture sur « Que ma joie demeure ». On en était à peu près à la moitié du travail quand on a eu l'invitation des Tombées de la Nuit à l'été 2021, et c'est sous l'impulsion de Claude Guinard, son directeur alors, de nous inviter à faire une étape de travail pendant le festival. Or, nous avions à ce moment-là que 3 interprètes disponibles sur les 6 de « Que ma joie demeure ». On a donc décidé de faire un pas de côté par rapport à l'adaptation de ce roman-là et de travailler sur un autre texte plus court qui allait nous permettre d'avancer dans notre recherche et notre exploration des enjeux qui étaient présentés dans le roman de Jean Giono, dans « Que ma joie demeure », mais sur un format beaucoup plus court qu'on pouvait travailler à 3 et qui allait nous permettre aussi autre chose. Puisqu'en effet, depuis le début de notre travail avec Romain, on avait commencé une sorte d'enquête documentaire. Quand on a commencé l'adaptation de « Que ma joie demeure », on est allé, ça a été notre premier geste, notre premier travail, on est allé sur les terres de Jean Giono pour essayer de comprendre qui étaient les héritiers des personnages du roman. Et dans « Que ma joie demeure », tous les personnages sont des paysans, sont des agriculteurs, des agricultrices. Et donc on voulait comprendre qui aujourd'hui travaillait ces terres-là, qu'est-ce qu'il restait de ce que Giono présenté comme un rapport au vivant dans les années 30 et un rapport à la terre dans les années 30, qu'est-ce qui nous en restait aujourd'hui? Et donc on a commencé à enregistrer des gens et à être à chaque fois assez bouleversés par leurs témoignages. Mais plus le temps avançait, plus on se rendait compte que dans « Que ma joie demeure », il n'y allait pas avoir la place pour déployer cette enquête-là. Et donc quand on a reçu cette invitation des Tombées de la Nuit, on s'est dit c'est l'occasion de travailler autre chose, autrement, de prendre un texte plus court, qu'on pourrait plus facilement aérer et hybrider avec ces paroles-là. Et donc en 2021, en 5-6 jours, naît le Prélude de Pan, avec des témoignages des paysans de Bécherel, donc dans l'arrière-pays de Rennes, avec les Tombées de la Nuit.
Parce que donc, vous l'avez déjà joué, mais à chaque fois, à chaque nouvelle étape, c'est une recréation, parce que donc ce Prélude de Pan, tel que vous le jouez, s'écrit autour du texte de Giono, mais avec celles et ceux qui vivent sur le territoire où vous êtes, plus précisément avec celles et ceux qui y travaillent la terre.
Oui, c'est ça. À chaque fois, on a des rencontres documentaires qui précèdent la création du spectacle et qui prennent la forme d'entretiens avec des maraîchers, des éleveurs. Et à chaque fois, on essaie de construire une espèce de carte géographique, en fait, aussi pour resituer le spectacle dans le lieu où on le joue. Et c'est une expérience assez... On a une banque sonore qui commence à être assez importante entre la Bretagne, la Normandie, le Sud-Ouest, tous les lieux qu'on a traversés. Et en venant ici à Avignon, ouais, c'était intéressant de se confronter à l'histoire de ce lieu, donc entre la Durance et le Rhône, l'histoire maraîchère du lieu, et de rencontrer des formes aussi d'agriculture très très différentes.
Oh, monsieur, c'est ton idée. Et c'est avec des grands chars et des machines qu'on va avancer.
Ça, c'est sûr, ça. C'est évident. C'est évident. Moi, j'aime ça, les machines.
Et ouais, mais après, ça veut dire moins d'arbres aussi.
Bon, oui, mais ça, c'est bien, ça. Moins d'arbres, c'est bien. Ah oui.
On respire plus, il y a moins d'arbres.
Comment?
On respire plus, il y a moins d'arbres.
Il n'y a plus d'oiseaux.
Non, mais on les oiseaux, ça mange le blé, ça mange les tourneaux soirées.
S'il n'y en a pas, c'est pas grave.
On va être réaliste.
Mais s'il n'y a pas d'oiseaux, il y a plus d'insectes qui peuvent aussi ravager les cultures.
Ça, c'est pas grave, après c'est l'insecticide, ça va nettoyer. Ça inquiète pas. Ça inquiète pas pour ça. La chimie a travaillé pour nous. La chimie, c'est génial. Et ils ont fait des progrès extraordinaires. C'est génial, ça. Les tournesols que vous avez vus, là, avec un peu de chance, il n'y aura pas trop d'herbe, grâce aux désherbants, quoi.
Qui parle?
C'est Didier Doux, un céréalier qui possède plus de 250 hectares dans le coin. C'est énorme.
Mais à part lui, c'est vrai que les terrains de la plaine ne sont pas beaucoup cultivés.
Ah bon, pourquoi?
Ah oui, regarde, sinon là où on est, il y aurait un champ ou une vigne au lieu d'un festival.
Alors c'est un extrait enregistré ici, enfin à Villeneuve, donc sur cette plaine où vous jouez. Et on entend donc les comédiens, comédiennes qui reprennent derrière, qui situent un peu ce que l'on vient d'entendre, tout en faisant ce que ne peut pas faire une parole enregistrée, c'est-à-dire nous montrer la direction du Rhône quand il s'agit du Rhône, l'île de la Barthelasse quand il en est question. Pour cette venue ici, vous vous êtes donc installé quoi plusieurs jours avant? Comment ça s'est passé cette mise en contact, entrée en relation avec les personnes que vous avez enregistrées, Clara Edouin?
Alors en fait, d'habitude, le format est toujours un peu le même. Il est lié aux conditions économiques restreintes aussi qui sont les nôtres. On arrive en général avec Romain le lundi. On commence les interviews lundi après-midi, on les poursuit mardi, mercredi, le soir on dérush, le mercredi soir on commence à se dire attends, comment on va faire le montage du début, peut-être on met ça, puis ça, puis ça, enfin, et on réécrit un peu le spectacle en fonction de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a compris, du lieu dans lequel on s'installait. On poursuit un petit peu ce montage le jeudi, les acteurs arrivent, on répète avec eux, et on joue samedi, dimanche. Et en général, ce sont les habitants qu'on a rencontrés et les agriculteurs qu'on a rencontrés en début de semaine qui viennent avec leurs proches, leurs amis, etc. Et le spectacle a lieu. Le spectacle est une sorte de contre-don de cette attention qu'ils nous ont accordée en début de semaine. C'est comme un échange avec eux. Ce qui se passe du coup en amont du spectacle et en aval après est presque aussi important que le moment de performance à proprement dit. Et là, cette fois, Avignon, c'était un peu particulier parce qu'on était en répétition sur un autre spectacle jusqu'au dernier moment, quasiment jusqu'à l'avant-veille de la Générale. Donc on était venu un peu en amont avec Romain. On est venu 4 jours au mois de juin, début juin. On a rencontré donc les maraîchers, les agriculteurs de Villeneuve-les-Avignon et autour. Et on a fait notre montage un peu comme d'habitude, mais juste 3 semaines plus tôt.
Et effectivement, c'est un échange. Alors entre le fait que vous les enregistriez et qu'ils viennent au spectacle ensuite, mais même le moment d'enregistrement est un échange, parce que là, ce céréalier qu'on a entendu, il vous taquine un peu sur le progrès en disant bah quoi, le progrès, vous êtes venu en voiture, non, c'est aussi ça le progrès. Et voilà, ce qu'on comprend, c'est que il y a une relation qui se tisse avec eux. C'est pas juste vous arrivez, vous posez le micro et dites-nous ce que vous faites, quoi.
Oui, c'est ça. Et là, c'est particulièrement intéressant. Et on voulait garder aussi nos voix, parce qu'on a aussi nos questions de nous, qui quand même vivons dans des cadres urbains et donc loin de l'agriculture. Et c'est la poule qui a rencontré un couteau. Enfin, on avait un peu envie de garder ça. Et voilà, ce céréalier, il nous a fascinés, parce que il tient un discours donc pour le progrès technique, pour la chimie, pour les engrais, etc. Absolument décomplexé, avec une joie qu'on a trouvée incroyable et qui nous faisait comprendre aussi ce qu'a pu être la révolution agricole, en fait. On voyait vraiment le pouvoir et l'attraction et le désir qu'il peut y avoir pour les machines qui libéraient le travail, harassant, etc. Et c'est quelqu'un qui dit aussi des choses qui sont réelles. Il n'y a que 400 000 agriculteurs en France. Si on veut nourrir la France, alors ça aussi, on pourrait discuter cette notion-là. Avec 400 000 agriculteurs, eh ben, on est obligé d'utiliser des machines et de la chimie d'une certaine manière.
Alors juste après lui, il y a un maraîcher. Enfin voilà, pour dire que les paroles recueillies sont plurielles aussi. Vraiment, il y a plusieurs points de vue. À ce moment-là, donc de l'extrait qu'on a entendu, on est au tout début du spectacle. On est encore dans le premier lieu. Dehors déjà, donc là où est l'accueil du festival Villeneuve en Seine, assis à des tables de pique-nique à côté d'un chapiteau de cirque. Puis à la fin de ce premier tableau, nous nous mettons en route. Et comme ça, de lieu en lieu, dans une prairie, passant par un petit bois, en bordure d'un champ de tournesol. Il y a en tout 5 tableaux qui se jouent dans 5 lieux différents. Comment s'est fait, Clara Edouin, le chemin, la réflexion qui vous a mené à cette idée d'un théâtre qui se déplace et qui se joue non seulement en plein air, mais en plein bois ou en plein champ ?
Alors, il se trouve que déjà, depuis 15 ans, en fait, on travaillait dehors, qu'avec les mousquetaires, on pratiquait déjà un théâtre déambulatoire, mais les déplacements étaient très courts. On passait, par exemple, d'une cour comme celle-ci, la cour du cloître, à on pourrait ensuite jouer dans le parking, et puis derrière, juste devant, dans la rue. Mais c'est des déplacements très minimes. Et en fait, l'idée de la randonnée et de la marche est arrivée avec Que ma joie demeure. Et j'avoue, je la dois à une commande. C'est Fabien Bergès qui était alors le directeur de la scène conventionnée de Clermont-l'Hérault et qui est maintenant directeur de la scène nationale de Narbonne, qui m'a proposé en 2020, donc dans un contexte aussi post-Covid, etc., de m'inscrire dans 3 jours de randonnée théâtrale, donc comme une sorte de festival qui est appelé les Baroulas en occitan, qui veut dire marcher. Et il m'a proposé ça, sachant que je faisais déjà avec les mousquetaires ce théâtre extérieur, dehors, et qui se réadapte en permanence aux lieux dans lesquels les lieux qu'on investit. Et donc après, il y a eu le texte de Giono qui se prêtait aussi particulièrement bien à ce vagabondage de la pensée, à ces rêveries autour du paysage. Et on a commencé avec Que ma joie demeure et ensuite le prélude de Pan à pratiquer la marche au milieu du théâtre, quoi, et à mélanger les deux et à inscrire aussi du coup le corps dans le théâtre qu'on faisait.
Et évidemment, c'est toute la question aussi du décor qui est repensé, parce que là, c'est pas une toile de fond. Je disais un peu en introduction des paysages qui deviennent acteurs, mais c'est vous qui dites ça.
Oui, oui, et c'est aussi les acteurs qui deviennent paysages d'une certaine manière. Les 3 acteurs du prélude sont 3 paysages d'une certaine manière qui s'inscrivent dans les milieux vivants qu'on traverse. Mais d'ailleurs, moi, j'essaye de parler de moins en moins de paysages ou de théâtre paysage, comme on me l'invite parfois à le faire, mais à insister le plus souvent sur le fait qu'on... Non, en fait, ce sont des milieux vivants qu'on traverse, et on en fait partie. On est inscrit dedans, et on s'y réinscrit en les traversant. Le paysage porte, dans le vocabulaire, hein, dans la tradition du mot, une dimension picturale qui nous rend extérieurs. Alors que...
Qui est de la toile de fond.
Exactement, qui est la toile de fond, et qui évidemment s'inscrit dans une tradition occidentale et dans un héritage occidental de coupure avec le monde vivant et d'extériorisation de l'humain, du monde vivant.
Alors précisément, vous avez un compagnonnage de pensée ancien, Clara Edouin, avec le philosophe Baptiste Morisot, auteur notamment de Manière d'être vivant, dont nous reparlerons. Cette façon de repenser nos liens avec le vivant, de penser cette crise du sensible, comme il dit, que nous traversons, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle croise votre pratique du théâtre et votre réflexion sur le théâtre. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de repenser les liens à cet endroit-là du théâtre.
Oui, oui, absolument. Alors, en effet, la pensée de Morisot, elle m'accompagne depuis longtemps, puisqu'on s'est rencontrés au cours de nos études, il y a plus de 15 ans. Donc, on est amis, on discute ensemble des projets qu'on mène l'un et l'autre depuis longue date. Et là, c'est vrai que il y a cette espèce de croisement entre sa pensée et ce théâtre qui se pratique dehors. Et le dehors est comme cet endroit de trait d'union entre nos deux pratiques. Et la manière de l'investir, en effet, permet de croiser les deux, quoi. Et de le faire par le corps, en fait, et par une immersion des corps dans les milieux.
Et c'est lui, Baptiste Morisot, je crois, qui vous a conseillé de lire ou relire Jean Giono. Et donc, vous nous l'avez expliqué, au fil de vos lectures autour de Que ma joie demeure, vous êtes arrivé donc à ce prélude de Pan, une nouvelle dont nous allons entendre le début. Et comme votre aventure théâtrale est aussi celle d'un collectif et que nous avons beaucoup de chance, c'est l'un des comédiens de la troupe, Pierre Giafferi, qui est avec nous, ici, Cloître Saint-Louis, et qui va nous dire ce texte en direct.
Ceci arriva le 4 de septembre, l'an de ces gros orages. Cet an où il y eut du malheur pour tous sur notre terre. Si vous vous souvenez, ça avait commencé par une sorte d'éboulement du côté de Sauveterre, avec plus de 50 sapins culbutés cul-dessus-tête. La ravine charriait de longs cadavres d'arbres et ça faisait un bruit. C'était pitié de voir éclater ces troncs de bon bois contre les roches. Et tout ça s'en allait sur l'eau, en charpie, comme de la viande de malade. Puis il y eut cet évasement de la source du Gardon, vous vous souvenez ? Cette haute prairie soudain toute molle, puis cette bouche qui s'ouvrit dans les herbes, et on entendait au fond balloter l'eau noire, puis ce vomissement qui lui a pris à la montagne, et le vallon qui braille sous les lourds paquets d'eau froide. Ces deux choses-là, ça avait fait parler. On était dans les transes. Plus d'un se levait au milieu de la nuit, allait pieds nus à la fenêtre pour écouter, au fond de l'ombre, la montagne qui gémissait comme en mal d'enfant. On eut cependant un peu de paix. Mais maintenant qu'on sait, on sait que c'était la marque, le signe, que nous étions marqués pour la chose.
Merci beaucoup, Pierre Jaffery. Alors, ici, vous aviez un micro, mais c'est bien parce que nous sommes à la radio, car en réalité, vous n'en avez pas du tout besoin et vous faites sans tous les soirs, dehors, y compris avec le vent. Peut-être qu'on peut profiter de votre présence pour avoir aussi votre ressenti, votre expérience de comédien sur ce projet, justement, qui s'écrit en marchant dans tous les sens du terme.
Ouais, c'est un exercice particulier, l'extérieur, et que j'affectionne beaucoup, d'autant plus qu'on le joue depuis longtemps maintenant. Mais d'avoir ce décor-là, d'avoir la terre pour plancher et le ciel pour plafond, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à retrouver dans les boîtes noires. Et puis il y a aussi la notion d'épuisement des corps. Il y a un exercice de vérité, j'ai l'impression. On est obligé de suer pour de vrai, d'user notre corps et notre vie un petit peu. Et moi, j'aime ça, en tout cas, dans le métier que je pratique.
Et puis, ça peut-être implique aussi une relation avec le public qui est... Voilà, on est dehors, il y a du vent, vous n'avez pas de micro et c'est très bien comme ça. Et donc, ça veut dire aussi, on accepte des fois qu'il y a des mots qu'on n'arrive pas à attraper parce que c'est trop loin, que vous, des fois, ça doit tirer un peu quand même, mais ça fait partie de ce qui se passe.
Oui, il faut accepter ça, le vent, faire avec le vent et pas contre, se laisser porter par ça ou par la pluie aussi parfois, ça nous arrive,
aller,
ou
ouais.
La chaleur. Mais finalement, même la chaleur, qui est une donnée aussi qu'on a ressentie beaucoup il y a 2 ans, quand on a joué la grande forme, Que ma joie demeure, c'est quelque chose qui, après, qu'on finit par aimer, même, et que oui, et la relation avec le spectateur se fait d'une manière assez douce, paradoxalement, parce qu'on sait qu'ils sont là dans les mêmes conditions que nous et qu'on partage cette chose.
Et qu'ils vous suivent comme ça, de lieu en lieu. Alors... ce qui frappe à la lecture ou à l'écoute de ce prélude de Pan, ou d'ailleurs de « Que ma joie demeure », dont on retrouve des extraits dans ce que vous présentez ici, c'est évidemment la beauté de cette langue de Giono, mais aussi à quel point elle porte en elle ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée du vivant. Alors que, bon, ça a presque un siècle.
Oui, c'est ça. La langue de Giono est particulièrement saisie, cette chose du vent, on l'a entendu, là, cette histoire de source, de montagne. La montagne qui gémit, ouais. Et alors, c'est très, très impressionnant parce qu'il est toujours... c'est une poésie extrêmement concrète qui dévoile un peu les mécanismes, les fonctionnements, les couleurs, les textures. Il y a plein de notations comme ça qui sont très, très... très très puissante et à travailler aussi avec les années, c'est très impressionnant je trouve, c'est jamais les mêmes endroits qui nous touchent, enfin on découvre toujours des nouvelles choses quoi. À chaque représentation ça va pas être la même phrase qui va vous accrocher et il a une densité et en même temps une frontalité dans l'expression qui continue de saisir à chaque fois, ouais.
Il y a une note dans La solitude de la pitié qui est le recueil dont on a extrait le prélude de Pan, il y a une note qui s'appelle Le chant du monde où Jean Giono explique un peu donne les clés de son projet littéraire et il dit « Il faudrait réussir à ne pas faire de l'homme le centre de tout, Bien sûr, il est inévitable, c'est à lui qu'on s'intéresse, c'est notre espèce, on a envie de la comprendre. Mais comment on pourrait redonner sa place à la montagne, à la rivière, au vent, justement, à ces personnages de nos vies quotidiennes aussi, et qui, pour ceux qui travaillent la terre et qui vivent ailleurs qu'en ville, sont des véritables personnages, sont au cœur des conversations, sont au cœur des préoccupations de tous les jours, etc. Et donc, c'est drôle parce que, en effet, dans cette note qui présente le projet littéraire de Giono, on retrouve aussi quelque chose de la pensée de Morisot, complètement. Vous me demandiez tout à l'heure quel était le lien. Oui. Mais le lien est dans la langue, en fait. Il y a déjà Morisot, d'une certaine manière, dans Giono. Et le lien est évidemment aussi dans ce que disait Pierre tout à l'heure. Il est dans le corps. Il est dans, c'est une langue, celle de Giono, extrêmement charnelle, extrêmement sensuelle, sexuelle aussi. Et il y a quelque chose de leur, il y a un vitalisme. Qu'on pourrait qualifier même de Nietzschéen, qui traverse la pensée de Giono comme celle de Morisot.
Et voilà, il nous parle philosophiquement, poétiquement aujourd'hui, ce texte de Giono. Et en même temps, voilà, je l'ai dit, c'est passé près d'un siècle. Et ce que l'on entend, pour le coup, dans les témoignages, et c'est là où c'est évidemment très intéressant que tout ça soit tissé, c'est que, bah, quand même, entre-temps, il y a un monde aussi qui a évolué. C'est aussi ça qui est raconté à travers... les paroles que vous avez recueillies.
Oui, oui, il y a des choses qui se rejoignent à la fois dans les gestes du travail, comment Giono en parle et comment les agriculteurs en parlent. Et ça, c'était très important pour nous d'avoir vraiment cette concentration autour du travail. Et des choses qui ont bougé. On a récupéré la scène du fermier, qu'on appelle nous la scène du fermier dans Que ma joie demeure, qui est un dialogue très intéressant, où le personnage de Bobby, qui est un personnage... pour résumer extrêmement rapidement, pré-hippie, et dans un mode de vie de « on doit laisser faire la nature pour l'accepter, etc. » est confronté à un personnage qui lui dit « mais non, il y a le travail, quoi. » qui est un personnage de communiste, et qui lui a un grand projet qui serait des champs immenses, à perte de vue, sans arbres, bah, le rêve de Didier Doux qu'on a entendu tout à l'heure d'une certaine manière. Et on voit en quoi l'idéologie communiste de l'époque représentait Giono, et aujourd'hui correspond presque point par point à l'idéologie productiviste qui peut être encouragée par des syndicats comme la FNSEA ou la Coordination Rurale, c'est-à-dire l'imaginaire de grands champs et de « on va libérer le travail ». Et on voit aussi dans l'écart du siècle qui nous sépare de Giono comment les lignes aussi politiques ont bougé. Et ça nous intéressait beaucoup aussi de nous confronter à ça. C'est-à-dire c'est un discours qui continue à être juste mais qui s'est déplacé.
Et en même temps, ce qu'on entend aussi dans les témoignages que vous avez recueillis, Clara Edouin, c'est aussi voilà, la ville qui pousse, les terres agricoles qui reculent et des agriculteurs aussi qui sont parfois désemparés et qui disparaissent, y compris en se tuant.
Oui.
Il y a aussi ça dans ce qu'on entend.
Oui, oui, et effectivement, c'est une menace que voit venir Giono déjà dans les années 30. Il écrit une lettre aux paysans dans laquelle il leur dit « mais... tenez bon, enfin, ne quittez pas la terre. » Mais de fait, l'exode rural a été plus fort, l'attrait des villes, de l'industrialisation, du progrès, de la modernité a été plus fort que tout, et il est toujours plus fort. Il est plus fort pour nous. On est tous embarqués dans cette roue-là. Et oui, les agriculteurs sont une espèce en voie de disparition.
Sur cet aspect des choses, Pierre Jaffery, de comment tout ça est tissé, c'est-à-dire vous entre le texte de Giono, les moments où vous prenez un peu le relais, comme on a entendu au début, ça, puisque c'est réécrit quand même à chaque fois, vous sur votre travail, de comment vous vous emparez à chaque fois de paroles différentes qui vous environnent quelque part.
Concrètement, il y a un moment dans le spectacle, dans le dernier tableau, où il y a un exercice de reproduction de la parole d'un agriculteur à travers des oreillettes. Je dévoile un peu le dispositif. Qui a été inventé ce dispositif parce que on avait la parole, on récoltait la parole la veille. Il fallait trouver un moyen de voir comment cette parole-là pouvait être dans la chair d'un acteur sur le plateau. Et ça se fait aussi à la fois assez simplement et de voir comment... comment ces mots et ces morceaux de vie et cette philosophie aussi pouvaient se réincarner dans le corps et les yeux de quelqu'un d'une trentaine d'années.
Alors ça, c'est vraiment un moment où c'est tissé serré, c'est la fin, ouais. Effectivement, et c'est magnifique. Dire encore que ce texte aussi de Giono, dont on a entendu tout à l'heure le début, a quelque chose de très dramaturgique, et que c'est aussi... un mouvement, voilà, on vous suit, mais on vous suit aussi parce qu'on a envie de connaître la suite. Il y a quand même aussi une forme de suspense. Je voulais juste qu'on garde quelques minutes avec vous pour évoquer donc le projet dans lequel vous êtes aussi en ce moment, cette prochaine création de Manière d'être vivant, d'après Baptiste Morisot. Clara Edouin, peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots justement de quelle façon ça s'inscrit dans tout ce travail que vous avez déjà mené.
Eh bien, on le disait tout à l'heure, en fait, en effet, la philosophie de Morisot, elle a irrigué le travail de ces 5 dernières années autour de Giono, et c'est arrivé presque naturellement. Il y a eu d'abord une lecture, il y a 4 ans, enfin, d'un texte de Morisot qui s'appelle « Sur la piste animale », et donc c'est 3 récits de pistage dont je fais la lecture, et, avec le compagnonnage d'Éric Didry. Et en fait, cette lecture, qui est assez agréable à faire pour moi, parce que c'est aussi des récits que je connais bien, pour certains que j'ai plus ou moins vécu avec Baptiste, avec d'autres, j'ai eu envie au départ de la pluraliser, que d'autres acteurs et actrices puissent s'inviter dans ce processus-là, d'oraliser la parole de Morisot. Et puis en fait, au départ, je voulais qu'il y ait plein de lectures, je voulais en faire plein. Et puis peu à peu, je me suis dit mais non, en fait, faisons un spectacle. Et le texte après sur la piste animale vient Manière d'être vivant dans la chronologie un peu de la publication des textes de Baptiste. Et ce sont les deux livres les plus narratifs qui les produit. Sur la piste animale, c'est vraiment des récits de pistage, et Manière d'être vivant, c'est 4 textes en fait. Il y a 4 textes dans le livre, et le loup est un personnage principal, voilà. C'est le personnage qu'on ne voit presque jamais, mais qu'on quête et sur lequel on enquête pendant tout le livre. Même s'il y a les 2 textes centraux de Manière portent sur d'autres choses, et en fait, on s'est appuyé beaucoup avec Romain sur cette histoire d'enquête en fait, et donc sur même si la philosophie est pas forcément ce qui se prête le plus au théâtre, il y a quand même des récits de terrain, il y a une recherche, il y a une enquête presque policière autour du loup, et donc c'est ça qui nous sert de pied d'appel pour rentrer dans l'histoire.
Et il y a un défi, un enjeu nouveau aussi pour vous, puisque ce sera dans des théâtres, donc c'est aussi autre chose évidemment, et en même temps la suite d'un mouvement. Merci beaucoup à tous les deux, Clara Edouin, Romain de Bec-de-Lièvre. Merci encore à vous aussi, Pierre Jaffery, pour la lecture. Prélude de pensée jusqu'au 20 juillet à Villeneuve-les-Avignon, pleine de l'Abbaye. Que ma joie demeure, fin juillet, 29-30, aux Estivales du Haut Calatou. Et Manière d'être vivant, dont on vient de parler. Votre prochain spectacle donc sera créé au TNP à Villeurbanne du 10 au 25 octobre. Et puis en tournée, vous passerez notamment au Théâtre de la Crie à Marseille en mars et la MC 93 à Bobigny en avril. Merci beaucoup à tous les 3. Comme chaque jour, cette semaine avant le journal, quelques mots du programme des fictions de France Culture. Ce soir à 20h, Le Prophète de Khalil Gibran, enregistré hier dans la cour du musée Calvet ici à Avignon, mais donc ce soir à l'antenne avec des comédiens et comédiennes de l'ENSAT, la 84e promotion, et le musicien Olivier Longre.
Un jeune homme dit « Parle-nous de l'amitié ». Il répondit
« Votre ami et vos aspirations comblées. Il est le champ que vous ensemencez avec amour et moissonnez avec gratitude.
Il est votre table, votre foyer, car vous venez à lui avec votre faim et vous le recherchez pour trouver la paix.
Lorsque votre ami vous confie le fond de sa pensée, vous ne craignez pas le non dans votre esprit et vous ne refusez pas le oui.
Et lorsqu'il est silencieux, votre cœur ne cesse d'être à l'écoute du sien. Car en amitié, toute pensée, tout désir, toute attente naissent et se partagent sans mots et avec une joie discrète.
Lorsque vous quittez votre ami, vous n'êtes pas attristé ? Car ce que vous chérissez le plus en lui peut s'éclaircir en son absence. Comme les sommets apparaissent plus clairement aux yeux du montagnard qui les contemple de la plaine.
Qu'il n'y ait d'autre motif à l'amitié qu'un approfondissement de l'esprit. Car un amour en quête d'un autre but que la révélation de son mystère n'est pas de l'amour, mais un filet jeté sur l'eau. Seul l'inutile est pris.
Le Prophète avec des comédiennes et comédiens de l'ENSAT et le musicien Olivier Longre, choix des extraits et réalisation Baptiste Guiton, assisté de Claire Chéneau. C'est donc à écouter ce soir à 20h sur France Culture. Les midis continuent à 12h45 en compagnie de Mario Banouchi, dont le travail extraordinaire est présenté pour la première fois en France à l'occasion du festival. Il sera là juste après le journal qui arrive dans quelques instants.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Près de 60% des artistes invités cette année au festival le sont pour la première fois. C'est le cas de notre invité et nous ne prenons sans doute pas beaucoup de risques en disant qu'il y aura d'autres fois ici pour lui, d'autant que Thiago Rodriguez l'a dit lui-même lors de la présentation de cette 79e édition. Bonjour Mario Banucci.
Good morning.
Et merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 13h sur France Culture et en public ici à Avignon-Cloître-Saint-Louis. Bonjour et merci à Zena Tutunji qui va traduire vos propos. Mario Banucci, vous êtes né en Grèce, vous êtes parti tôt en Albanie, puis vous êtes revenu en Grèce. Vos œuvres ont déjà beaucoup tourné, beaucoup voyagé avant d'arriver en France où nous les découvrons. C'est un peu un défi de parler de votre théâtre à la radio tant il est fait d'images, d'atmosphères. Est-ce que dire que vous dessinez beaucoup et que le travail de la lumière est associé chez vous à la, dramaturgie peut être une bonne entrée en matière?
Yes, yes. So, first of all, thank you.
Tout d'abord, merci beaucoup
having me here.
De me recevoir.
I want to thank Thiago Rodriguez and Magda Bizarro.
Je voudrais remercier Thiago Rodriguez et Magda Bizarro.
I remember myself last year that I came to see the festival.
Je me souviens l'an dernier quand je suis venu voir le festival.
And now I'm here presenting my work.
Et là je suis ici pour présenter mon travail.
Rehearsing for it, and for me it's a very big honor.
Et c'est un très grand honneur pour moi.
So, shall I start talking about my work?
Est-ce que je peux déjà commencer à parler de mon travail?
Oui, et la question c'était voilà, est-ce qu'on peut pour commencer à parler de votre travail, commencer en disant que la lumière est pour vous associée à la dramaturgie et que, en amont de vos créations, vous dessinez beaucoup. Est-ce que c'est une façon de commencer à parler de votre travail?
Yes, this is something that I always do.
Oui, c'est quelque chose que je fais toujours avant de commencer les répétitions.
I always stay alone in my house, drawing and imagining.
Je passe beaucoup de temps seul chez moi à dessiner, imaginer ce que je veux voir sur scène.
For me, it's very important, the colors,
et pour moi,
the
les couleurs sont très importantes, la lumière.
Really
je pense qu'ils affectent énormément l'âme et la manière dont on ressent les choses, quand on voit quelque chose.
So, the challenge for me as an artist,
le défi pour moi en tant qu'artiste est de me concentrer sur la beauté, bien sûr, mais pas simplement de rester au niveau de la beauté, mais de pouvoir parler de la vie. La vraie vie
that us and us.
Et ce qui nous affecte et nous touche.
So this combination sometimes,
cette combinaison parfois,
when you want to talk visually,
quand
it's
on veut
hard.
Parler visuellement, n'est pas facile.
So it's always a challenge
c'est
for
toujours
me,
un
yes.
défi pour moi, oui.
Parce que donc il n'y a pas de parole, pas de texte, ni dans Mamie, ni dans vos précédentes pièces, Mario Banucci, ce qui ne veut pas du tout dire qu'elles sont muettes. J'ai lu que vous disiez que ça n'était pas forcément une volonté de départ consciente, mais que vous avez constaté au moment de votre première pièce Ragada en 2022 que votre langage était ailleurs que dans les mots et que donc ça vous intéressait de poursuivre dans cette direction-là.
Yes, there are many reasons I don't use
oui, il y a plusieurs raisons que je, pour lesquelles je n'utilise pas les mots dans mes pièces. La première,
because I'm coming from two countries,
parce que je viens de deux pays,
I always had to choose which
j'ai toujours
talk,
dû choisir quelle langue choisir avec mes amis et ma famille.
This language, the body language,
et j'ai toujours aimé le langage corporel que tout le monde utilise.
It's in a way universal.
C'est universel d'une certaine manière.
So for me, it doesn't have limits, this language.
Donc pour moi, c'est une langue sans limites.
I love that my work can communicate with all the people
et
from all the cultures.
Que mon travail puisse communiquer avec tout le monde et toutes les cultures.
And it makes it more,
et ça le rend
more something, I don't know.
Quelque chose, je ne sais pas le dire.
Alors, en ouverture du spectacle que vous présentez ici, Mamie, il y a sur scène une toute petite maison éclairée à l'intérieur. C'est la nuit noire. L'autre source de lumière, c'est un lampadaire au pied duquel est garé un vélo à la droite de la maison, de l'autre côté d'une petite allée. Un chien aboie un peu plus loin. Une femme ouvre la porte de la maison. Elle sort, elle est enceinte, elle revient. Une femme âgée sort à son tour, très lentement. Quelques instants plus tard, nous entendrons qu'arrive un accouchement. Que veut dire pour vous le mot « mamie » ? Qu'est-ce qu'il veut dire et qui veut-il dire ?
My mother used to be a midwife in
Ma mère était sage-femme en Albanie.
And I always used to hear stories from
et j'entendais toujours des histoires qu'elle racontait, comment les bébés naissaient.
She was always describing me this moment,
elle me décrivait toujours ces moments
where she was catching for the first time the baby.
Quand elle saisissait le bébé pour la première fois.
Something else, it's also that my mother, it's a very important figure in my life.
Ma mère est une figure très importante dans ma vie.
So I said that I would like to create a piece that I will combine all
Alors
these
je me suis dit, je voudrais créer une pièce dans laquelle je pourrais combiner
and
toutes ces histoires et je vais pouvoir raconter ces moments quand un être arrive à la vie.
So I will title this piece Mommy,
et c'est pour ça que j'ai appelé cette pièce Mami,
of course means mother,
qui savait
in Albanian
veut dire
mother.
Maman en albanais.
And I will try to focus on
et
this
j'essaie
relationship
de me concentrer sur cette relation entre la mère et son fils.
And when is the moment where
et à quel moment les rôles s'inversent.
And the son, in a symbolic
et
way,
le fils, d'une manière très symbolique,
becomes the
devient
mother,
la mère.
And the mother becomes
et la mère
the baby.
Devient le bébé.
As in my real life, when I remember
c'est
my
comme ma propre vie,
grandmother,
quand je me souviens de ma grand-mère,
when she was very old and
quand
my
elle était très âgée
used to take care of
et
her,
mon père s'occupait d'elle,
she used to call him a mother.
Elle l'appelait maman.
And this is also a very big reference for
et ça,
me
c'est
in
une
this
référence
work
très forte pour moi dans ce travail.
Des références, des images, des souvenirs personnels et en même temps, Mario Banucci, on n'assiste pas à votre histoire. Vous n'êtes pas dans ce spectacle en train de nous raconter votre histoire.
Yes, for me, the starting
oui, pour
point,
moi, le point de départ
personal,
est quelque chose de personnel.
But,
mais
day,
en fin de compte, et à la fin
I
des répétitions,
to piece.
Je ne veux pas que ce soit une pièce documentaire.
So, I like the fact that,
j'aime
the people can
le fait
feel
que les personnes puissent ressentir
personal,
qu'elles puissent ressentir quelque chose
but,
de personnel.
They don't see my exact story.
Mais je ne veux pas qu'ils voient mon histoire à moi.
C'est un cœur que l'on entend, c'est E-U-R en dessous du cœur avec un CH.
It's a combination of these two.
C'est une combinaison
it's
des deux.
An Albanian choir,
c'est un chœur albanais.
That it's, for me, a reference of my
qui est pour moi une référence à mes origines
tradition,
et mes traditions
in my country, Albania.
Dans mon pays d'origine, l'Albanie.
And when we were rehearsing for this moment of
et quand nous faisions les répétitions pour ce moment,
talking with the on music designer,
parlait beaucoup avec le directeur de la musique.
And I felt that in this moment I wanted to hear this heart beating.
Senti à ce moment-là que je voulais qu'on entende le cœur battre.
Like a volcano will go to explode.
Comme un volcan qui allait exploser.
So this was the reason I
c'est la raison
this heart
pour
beating.
Laquelle je voulais entendre les pulsations de ce cœur.
Parce que je l'ai dit au début, donc on est dans un théâtre très visuel. Vraiment, on a l'impression de voir de la peinture, de la sculpture aussi. Mais effectivement, le travail du son est très important. Comment est-ce que vous pensez ça, non seulement la musique, mais au-delà de la musique, le son, sa spatialisation, la manière dont il entre, il sort des tableaux?
Because it's a visual piece and we don't
parce
use words.
Parce que c'est une pièce visuelle et on n'utilise pas les mots.
The music, the lights,
la musique,
the
la
set,
lumière et le costumes, et la scénographie, les costumes, c'est et notre langage,
text.
C'est notre texte.
So, in a way, I don't direct
donc d'une manière, non seulement je dirige le mouvement, mais je dirige aussi toute
look,
l'image,
the colors, the lights,
comment,
the voilà,
les couleurs, l'atmosphère.
So it's our text. It's
c'est notre texte en réalité. C'est le livre qu'on ouvre et on démarre à partir de là.
Comment est-ce que vous travaillez justement, Mario Banucci, avec vos interprètes qui ne sont pas nécessairement des personnes habituées à la scène, je crois? Comment vous leur transmettez justement ces sensations, ces émotions, tout ce que vous nous donnez dans ce spectacle et qui ne passe pas par des mots, par un texte à apprendre?
Working in themes like
travailler sur des thèmes
a mother
comme
or
la mère
the birth,
ou la naissance,
it's very important for me
c'est
as
très important pour moi en tant que metteur en scène
with my team, with
d'être
with my
très
actors.
Sensible avec mes acteurs.
So I start by telling them why I
je
want to
commence
do
par leur expliquer pourquoi je veux faire
and
cette
what I want
pièce
to say with
this et ce que
piece.
Je cherche à dire
and
à travers cette pièce.
Little by little,
et graduellement, j'essaie d'ouvrir leur cœur et leurs âmes d'une manière très sensible et ne l'oubliant jamais que ce sont des personnes qui ont elles-mêmes leurs âmes et leurs propres
and
sentiments
find,
et elles doivent trouver une manière saine d'y aller et de me suivre et de jouer cette pièce.
Donc,
à la fin des répétitions, nous sommes comme une famille. Avec toute l'équipe, nous formons une famille. On ne peut plus se quitter quand on fait les tournées, nous sommes une famille ensemble. Et c'est ce qu'on ressent aussi quand on est en pleine performance. C'est que chaque personne est importante pour l'autre. Parce que nous ne sommes jamais seuls sur scène. Et c'est vraiment tous ensemble que nous racontons l'histoire.
Mamie, à voir ici à Avignon à partir de dimanche et jusqu'au 18 juillet au gymnase du lycée Aubanel. Vous serez ensuite en tournée et au printemps prochain au théâtre de l'Odéon à Paris avec Mamie du 9 au 16 avril. Mais nous pourrons aussi voir à l'Odéon Goodbye Lidinta, une création de 2023, fin mars, début avril, donc juste avant Mamie. Merci beaucoup Mario Banucci, bon festival. Merci à Zena Tutunji pour la traduction. Merci au public présent avec nous et à l'équipe des Midi, Aïssatou Ndoye, Laurence Malonda, Lisa Dejol, Laura, Jutesh Pérez et Nina Gandara. La technique ici à Avignon, Virginie Lorda, Florent Bujon, Jean-Benoît Tétu et Benoît Jégou, et à Paris, Dalia.